Si vous voulez, concernant justement ce mystère de la conséquence d'un acte sur une multitude, nous avons dans notre expérience, évidemment ce n'est pas une expérience banale, mais il est possible quand même de retrouver dans notre expérience humaine quelque chose de ce mystère. Si par exemple, on m'a donné une belle, une merveilleuse demeure, un château, par exemple, pensez à un château de la Loire, par exemple, un des beaux châteaux de France, on m'a donné ce château, mais bon, je le laisse se délabrer, je ne l'entretiens pas, les chauves-souris entrent, les carreaux sont cassés, les vandales arrivent, sont les jeunes, il y a des salles qui sont détruites, eh bien, petit à petit, ce château se détériore. Mais aussi, je m'en prive, mais c'est aussi pour ma famille, pour mes enfants, ma descendance. Je saccage ce trésor, et puis je l'abandonne, et ça sera perdu aussi pour ma descendance. C'est l'influence d'un acte de négligence, je n'ai pas pris soin sur ma postérité. Ma postérité sera privée de ce bien. Parce que je n'en prends pas soin. C'est bien la conséquence d'un seul acte sur d'autres. Ce n'est pas une multitude. Mais enfin, on comprend qu'il y a une influence. Et si vous poussez l'exemple à d'autres dimensions, par exemple, quand Hitler a envahi la Pologne, nous connaissons la date, nous connaissons l'heure, eh bien, la guerre a été mondiale. Je veux dire que tous les pays d'Europe se sont mis en guerre à cause de l'acte d'un seul. Nous étions en guerre mondiale, nous étions en état de guerre à cause de la décision d'un seul homme. Donc il n'est pas tellement absurde de penser, d'accueillir ce que Dieu nous révèle au sujet des répercussions immenses du péché d'un seul homme sur la multitude. Mais ça donne, évidemment, ça donne à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné cette doctrine du péché originel? Ça, c'est... Alors revenons au texte d'Isaïe. Le Seigneur a eu du bon plaisir, il lui a plu le broyer par la souffrance. Retenez cette expression. Le Seigneur a eu du bon plaisir, ça ne veut pas dire que Dieu est sadique, mais ça lui a plu cette attitude. Il lui a plu le broyer par la souffrance. Et tout le texte d'Isaïe 53, 10, 12 nous explique ce que Jésus a fait. Et moi, je vais vous expliquer aussi sur la base de ce que le Père Schenker nous a donné dans une session et que j'ai reconduit dans ce livre, donc, aux pages 118 et suivantes.
Juste la traduction que vous nous donnez, ça correspond à quel verset ?
Alors ça, c'est 53, 10 à 12 maintenant. Alors, une première chose, une première chose, c'est que le mot expiation, si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation ou d'expiation, ou si lui fait de sa propre vie un sacrifice de réparation, d'expiation, l'expiation. Vous avez ce mot, expiation? Oui, un sacrifice expiatoire. Hein? Eh bien, ce mot de expiation, au sens biblique, signifie toujours pardon. Pardon. Cela ne signifie pas payer quelque chose pour sa faute, mais recevoir le pardon. Ça, c'est vraiment essentiel. Expiation, ça signifie pas payer quelque chose pour sa faute, ça signifie recevoir le pardon. Le sacrifice de réparation concerne le pardon accordé au moyen d'une compensation liturgique ou non liturgique. Et Isaïe 53 souligne ensuite que le sacrifice de réparation doit être donné pour un droit sacré qui a été profané. Et quel est ce droit sacré violé? Quel bien sacré, divin, appartenant à Dieu, a été profané, désacralisé? La réponse est simple, c'est le serviteur lui-même qui a été mis à mort. Or, le serviteur appartient à Dieu. Il est le bien de Dieu. Tuer un saint constitue une profanation. On abîme, on détruit un bien qui appartient à Dieu. Et ce qui est très remarquable, c'est que le serviteur accepte cette mise à mort. Il transforme la profanation en une offrande de pardon pour ceux qui commettent la profanation. Les assassins trouvent le salut parce que leur victime accepte sa mort comme un sacrifice de réparation. Ils transforment la profanation en une offrande de pardon pour ceux qui commettent la profanation. Le serviteur a l'attitude de celui qui demande pardon et il obtiendra le pardon. Et c'est la clé du poème. Quand le poème dit, le chant du serviteur souffrant, 53, dit, ce sont nos souffrances qu'il portait, il a été transpercé à cause de nos crimes, dans ses blessures nous trouvons la guérison, nous comprenons pourquoi cet échange de la faute qui passe de la multitude sur le serviteur trouve son pardon. C'est que lui qui subit cette faute en étant tué, en fait une demande de pardon. Vous comprenez maintenant pourquoi nous nous sommes attardés sur la vision béatifique du Christ. Parce que les ressources en amour qu'il faut là pour faire ça. Lui qui subit cette faute en étant tué, en fait une demande de pardon. Et voilà comment il prend sur lui la faute de ceux qui le tuent. Il s'en charge. Mais ces fameuses images. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il prend sur lui la faute de ceux qui le tuent. Il s'en charge. Comment? Eh bien, parce que celui qui est victime d'injustice et qui demande le pardon pour ceux qui la commettent, prend sur lui la faute de l'injustice. Et il l'arrête par le fait même. Il ne demande pas la mort de ses profanateurs. Ce que vous trouvez dans beaucoup de psaumes imprécatoires. Détruis mon ennemi, celui qui me persécute. Détruis-le, Seigneur. Et c'est ça l'enjeu, je dirais, de l'étude du serviteur souffrant. C'est que nous trouvons une page de la Bible où pour la première fois, l'homme qui est injustement persécuté ne réclame pas de la part du Dieu juste un jugement qui ferait éclater la justice divine. Parce que si je n'implore pas la justice divine et je ne dis pas au Seigneur, Seigneur, détruis mes adversaires puisqu'ils me tuent et que moi je suis innocent, si l'homme biblique ne demande pas que Dieu intervienne, alors la justice divine n'est pas montrée. Donc Dieu n'est plus juste. Et c'est ça le drame. C'est que justement nous sommes en présence d'un texte qui fait un pas dans la révélation, un pas nouveau, qui va révéler des ressources nouvelles dans les profondeurs de Dieu. C'est que ici le serviteur ne va pas faire appel à la justice de Dieu pour qu'il détruise les profanateurs, mais il va faire appel à la miséricorde de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice. Et bon, on va avancer. Vous allez voir, évidemment, c'est de toute beauté. Hein. Mais on comprend hein, que c'est un peu délicat, un peu difficile. Et par conséquent, vous voyez, en prenant sur lui-même, en se chargeant de la faute et en demandant pardon, il arrête la condamnation. La condamnation n'existe plus. C'est-à-dire que les coupables... Eh bien, le but du serviteur, ce n'est pas de condamner les coupables, c'est de les sauver. Ce n'est pas qu'ils soient détruits, c'est qu'ils soient restaurés dans l'amitié de Dieu. Voilà ce que le serviteur souffrant manifestait déjà, et que Jésus a manifesté en plénitude, évidemment, dans des proportions infiniment plus importantes. Le quatrième chant du serviteur ajoute, « Il verra une descendance, il prolongera ses jours. » C'est donc l'avenir et la continuation de la vie qui lui est donnée. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la résurrection. Parce que sa mort n'est pas une fin, mais un point de départ. Et c'est de cette façon que la volonté du Seigneur aboutira, s'épanouira. Au Seigneur a plu celui qui fut broyé. Signalons un autre aspect de ce sacrifice du serviteur. Selon l'Ancien Testament, enlever un droit à Dieu, profaner ce qui appartient à Dieu, constitue un empiètement qui mérite la mort. On ne peut pas ôter au Seigneur ce qui lui appartient. Eh bien, le fait que Dieu institue le sacrifice pour qu'on puisse obtenir le pardon est une expression de grâce. Dans le sacrifice normal, il y a toujours un plus du côté de Dieu. Le pardon est toujours plus grand que la réparation ou la compensation offerte par le pécheur. Le sacrifice n'est jamais une balance entre deux plateaux parfaitement égaux. Comme si le dommage étant évalué à 1 million de dollars, la réparation était de 1 million. Dieu et l'homme seraient quittes. Non. Le Seigneur et nous ne sommes pas des égaux. Le don de grâce est infiniment plus important que le mystère du péché. Le péché est un dommage très grand qui peut être compensé par une amende très petite, une contravention minuscule. Et voilà l'expression de la grâce. Alors, on peut dire, mais en Isaïe 53, rien n'est apporté. La mise à mort du serviteur est purement négative, vue du dehors. On va dire, mais ce n'est pas un sacrifice, parce que dans un sacrifice, on apporte un agneau, on apporte un taureau, on apporte quelque chose, des petites bêtes, quelque chose. Quand on est pauvre, on a des petites bêtes, simplement. Quand on est riche, on apporte des gros taureaux, etc. Mais... Jésus, le serviteur en Isaïe 53 n'apporte rien. La mise à mort du serviteur est purement négative, vue du dehors. Il appartient au Seigneur et il est tué. Mais dans le cœur du serviteur, les choses se présentent autrement. Le serviteur acceptant de demander pardon, le pardon de ses assassins, change la mise à mort. Du point de vue extérieur, elle est un meurtre, évidemment, vu du point de vue du pécheur. Mais vu du point de vue où dans son cœur, il la tourne vers le Seigneur, elle est une demande de pardon qui a tout son poids. Parce que le serviteur meurt en tant que serviteur, parce qu'il est serviteur. Il est résolu à demander le pardon pour ses assassins. Et le Seigneur ne peut pas lui refuser ce que son serviteur lui demande. Parce qu'ils sont tellement accordés l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne peut pas refuser ce que le serviteur lui demande? Parce que précisément, c'est ce que le Seigneur veut que le serviteur manifeste. La volonté humaine de Jésus est l'expression de la volonté miséricordieuse du Père. Voilà où est leur accord parfait. C'est le sens de la passion du Seigneur. Jésus n'a pas fait autre chose. Il a accepté sa mort pour son Père, par fidélité à son Père, et il a attaché à cette mort une demande, une prière. Pardonne-leur. Et son Père n'a pas pu rester sourd à cette prière. Vous voyez, le même événement représente deux réalités. C'est un péché et c'est une intercession. Et si l'on attend un sacrifice liturgique, cultuel, avec un taureau, avec du sang qui coule, etc., eh bien, on conclura que l'expiation du serviteur n'est pas un sacrifice, parce qu'il n'y a apparemment rien de cultuel ici. Pourtant, si l'on considère que l'âme de l'acte liturgique, du sacrifice, c'est l'offrande de la personne elle-même, en intention, et que c'est là le noyau ou l'essence du sacrifice qui donne sens à l'acte cultuel et liturgique, alors l'expiation du serviteur est un sacrifice. Saint Thomas avait déjà vu l'objection. Il dit, mais comment se fait-il? Vous me dites, la lettre aux Hébreux me dit que le Christ est un grand prêtre et qu'il a offert un sacrifice. Mais moi, je ne vois pas de sang. Je vois pas de feu, je vois pas d'autel dans la mort du Christ. Je vois du sang, mais c'est pas un sang de bête. Et saint Thomas répond, ben, il y a plus dans l'accomplissement que dans la figure. C'est vrai que le bois, l'autel est remplacé par la croix, le feu est remplacé par l'amour infini dans le cœur de Jésus, l'Esprit Saint en personne. Et le sang, c'est le sang de la victime elle-même. C'est son propre sang. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus? Bien, il a intercédé. Comme quelqu'un qui intercède pour un ami. Écoute, je sais bien que Monsieur le Président ne te connaît pas, mais moi je le connais bien, c'est mon ami, et je voudrais bien qu'il t'invite à cette fête. Alors je vais parler au Président de mon ami, c'est un pauvre garçon, mais il est chic, il est gentil, vous avez l'aimé, etc. Invitez-le. Bah oui. Quand quelqu'un intercède auprès d'un grand ponte pour un pauvre, eh bien, il fait une médiation. Mais ce que fait Jésus? Le serviteur utilise son poids, et son poids, c'est sa mort, c'est son innocence, C'est sa mission et son humilité. Il utilise ce poids pour les multitudes dont il est question. Alors que les multitudes sont ses ennemis, ou étaient ses ennemis. Et il obtient pour eux, j'obtiens pour vous ce que vous-même, vous ne pouvez pas obtenir parce que vous n'avez pas accès au Seigneur. Et moi, j'ai accès au Seigneur. C'est ça la médiation. Médiateur. Serviteur. Est-ce que vous voyez un tout petit peu maintenant, un petit peu mieux ce que c'est que le mystère de la rédemption? Le mystère de la rédemption, c'est quelqu'un qui cache dans les profondeurs de son cœur un amour tel pour le genre humain, pour les hommes pécheurs, dont il connaît la situation dangereuse, car c'est une situation qui débouche sur la damnation, ça, cet état de péché. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autre remède, parce que, puisque l'homme par lui-même ne peut pas se rendre juste, il fallait que nous recevions la justice d'un cœur humain débordant de grâce, débordant d'amour. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme soit sauvé autrement que par le concours de l'homme. Saint Anselme qui explique ça d'une façon merveilleuse. Dieu ne veut pas te sauver sans ton concours. Mais quand Dieu te parle comme ça, Dieu ne veut pas te sauver sans ton concours, c'est qu'il regarde l'humanité et dans cette multitude, il faut un seul homme. Et c'est le concours de ce seul homme qui est dans la grâce qui va mériter à tous la grâce. C'est par l'obéissance d'un seul.
Et notre concours, alors, c'est quoi?
C'est celui qui consiste à recevoir, à accepter le don de la grâce. Accepter le sauvetage. Si le sauveteur te tend la main et que toi tu la refuses, là c'est fini. Mais si tu tends la main sans cesse jusqu'à la dernière seconde, c'est ça le Christ. On te tend la main constamment jusqu'au bout. C'est un sauvetage gratuit qu'on accepte par la foi. Et par la foi, qu'on s'approprie ce trésor. C'est seulement la foi qui nous permet justement de recevoir la plénitude du don que Dieu a prévu de nous donner par son Fils, par son Christ, par son Messie, par son Sauveur, le Rédempteur. Donc la rédemption, c'est ça. La rédemption, c'est la plénitude de la justice, parce que la définition que donne Jean-Paul II dans son texte, vous connaissez le texte si vous voulez. Numéro 9. En réfléchissant de nouveau sur ce texte admirable du magistère, nous n'oublions pas, pas même un instant, que Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, toujours l'identité divine du Christ, hein, fils du Dieu vivant, est devenu notre réconciliation avec le Père. C'est lui et lui seulement qui a correspondu à la justice, comme deux notes qui sonnent justes dans un accord musical. C'est ça la justice. Deux notes qui sonnent justes. Eh bien, la volonté humaine est parfaitement accordée à la volonté divine. C'est lui et lui seulement qui a correspondu pleinement à l'amour éternel du Père, à cette paternité que Dieu a exprimée dès le commencement, en créant le monde, en donnant à l'homme toute la richesse de la création, en le créant à l'image et l'assemblance de Dieu. Le Christ a également correspondu pleinement à cette paternité et à cet amour, alors que l'homme a rejeté cet amour en rompant la première alliance et toutes celles que Dieu... Bon, nous avions lu jusque-là. Regardez la définition de la rédemption. La rédemption du monde, ce mystère redoutable de l'amour, dans lequel la création est renouvelée, et dans ses racines les plus profondes, la plénitude de la justice dans un cœur humain, Romains 5, dans le cœur du Fils premier-né, afin qu'elle puisse devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes, qui, dans ce Fils premier-né, ont été prédestinés de toute éternité à devenir fils de Dieu, appelés à la grâce, appelés à l'amour. Voyez, Romains 5. Par la justice d'un seul, la multitude a été constituée juste. L'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Ainsi de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y aurait beaucoup à dire parce que le temps est court, mais oui, quand vous lisez, quand vous entendrez, le Seigneur a voulu, ou le Seigneur, il lui a plu, le broyer par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Par ses blessures, nous trouvons la guérison. C'est cet échange. Donc c'est le serviteur qui est la clé de la rédemption. C'est ce poème, et que les Juifs ne comprenaient pas. Et même lorsque le Christ s'est présenté, ils n'ont pas pu comprendre. Il n'y avait rien dans la littérature juive, et même dans les fêtes, dans les événements, il n'y avait rien pour dévoiler le sens d'un tel poème. On ne comprenait pas jusque-là. C'est à la lumière du mystère pascal que Pierre, que Paul, que Jean, que les apôtres, dans la lumière de la Pentecôte, ont compris. Ont compris les annonces de la Passion. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté. Parce que Jésus faisait déjà, lui, de sa Passion, un sacrifice d'expiation. Il savait pourquoi. Et quand il a dit... Prenez mon sang, buvez mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. C'est ça, l'intention du serviteur qu'il a assumé, qu'il a accompli. C'est la figure, le serviteur c'est la figure, et le Christ c'est l'accomplissement. Vous lirez, je vous laisse lire l'homélie de Jean-Paul II du Dimanche des Rameaux. C'est un développement de Redemptor Hominis. Nous sommes sur la place Saint-Pierre, il y a 300 000 jeunes déjà. C'est la création des Journées mondiales de la jeunesse. Ce jour-là, Jean-Paul II va donner aux jeunes du monde entier une lettre. La lettre aux jeunes. Et c'est son commentaire du dialogue du Christ avec le jeune homme riche. Et alors il va commenter l'évangile. Et vous verrez, donc il a fait de sa façon évidemment tout à fait personnelle, mais qui assume toute la doctrine des pères de l'Église de Saint Thomas. Mais dans cette homélie, vous avez 23 ou 25 citations de l'Écriture sainte. n'entre pas dans la lecture du texte parce que ça nous en entraîne trop loin. Mais vous verrez comment, à sa façon, Jean-Paul II, ici, en posant l'homélie du dimanche des Rameaux, pose le premier élément de sa grande catéchèse des jours saints. La catéchèse va se déployer jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, la veillée pascale, le dimanche, le message Urbi et Orbi, le dimanche de Pâques. Bon, donc, ces textes-là sont l'enseignement fondamental pour devenir chrétien. J'ai rassemblé dans des livres qui s'appellent La Pâque de Jésus, de ces homélies là de Jean-Paul II, entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Ça s'appelle La Pâque de Jésus. C'est publié chez Le Tielleux. Et c'est que des homélies où Jean-Paul II développe en quelques mots, bien sûr, mais l'essentiel du mystère. Maintenant, avant de nous séparer, je vais vous parler tout de même de la résurrection du Seigneur. Alors, je suis le traité de la résurrection du Christ dans la somme de théologie, un tertia parte. Ici encore, vous avez un merveilleux petit traité de la résurrection du Christ. Donc, à partir du numéro 638. Jusqu'au numéro 655. On pourrait se demander d'abord pourquoi Jésus est-il ressuscité? La question se pose en effet aux théologiens parce que on se rend compte qu'il n'est pas absolument nécessaire que le Christ soit ressuscité. Pourquoi ça? Il est ressuscité, ça signifie qu'il est relevé. Ressuscité suppose qu'on se relève de la mort. La résurrection suppose donc que le Christ soit mort, c'est-à-dire qu'il est passé par cette séparation de l'âme et du corps. Or, saint Thomas l'a fait remarquer, quand il s'agit du mystère de la mort du Christ, et non pas de la résurrection, il dit « il n'était pas nécessaire, absolument parlant, que le Christ passe par la mort. Jésus aurait pu nous racheter du péché sans avoir à passer par la mort. Il a voulu passer par la mort, son Père a prévu cela, pour des raisons que nous avons indiquées. Donc vous voyez, pas nécessaire, absolument parlant. Et on pourrait imaginer, on aurait pu imaginer que Jésus passe de sa vie mortelle, telle que les expériences des évangiles nous le relatent, à sa vie de corps glorifié, sans avoir à passer par une résurrection en passant par la mort, si vous voulez. C'est pas nécessaire dans ce sens-là. Alors, pourquoi fallait-il une résurrection après sa mort? Ah ben, le premier motif, c'est que Dieu voulait montrer sa justice. Ne convenait-il pas, dit saint Thomas, ne convenait-il pas à Dieu d'exalter ceux qui s'humilient à cause de Dieu? Il s'est humilié, il s'est abaissé tellement qu'il a eu ça comme récompense. Jean-Paul II a redit ça. Dans Redemptor Hominis, il parle de la résurrection du Christ comme de la récompense de l'obéissance de Jésus. Bon. Si ça vous intéresse, je vous passerai aussi mes notes sur la résurrection. Ça fait un petit quelques pages. On va aller un petit peu vite là parce qu'on doit. Alors, comment Jésus est-il ressuscité? C'est une question aussi que nous pouvons tous nous poser. Il est ressuscité, bon, le troisième jour. Pourquoi le troisième jour? Troisième jour, c'est-à-dire le dimanche matin. Alors, Jésus n'est pas ressuscité aussitôt après sa mort, comme on aurait pu l'imaginer, comme certains du reste à l'heure actuelle le pensent. Hein. Les textes évangéliques disent bien le dimanche matin, le troisième jour. Donc il n'est pas ressuscité tout de suite. Et pourquoi? Ah, oui, il fallait qu'il prenne ce temps-là. Oui, mais ça se fait en une fraction de seconde, ça. Parce que, au fond, vous voyez, s'il était ressuscité tout de suite, aussitôt après sa mort, on n'aurait pas cru vraiment à une mort réelle. On aurait pensé qu'il n'était pas mort s'il était ressuscité tout de suite après. C'est la raison que donne saint Thomas. D'autre part, il fallait pas non plus que la résurrection soit retardée jusqu'à la fin des temps, comme notre résurrection à nous. Parce que, dit saint Thomas, nous avons à croire au Christ, à croire à sa vie vraiment surhumaine maintenant. Nous n'avons pas à attendre la fin des temps. Il faut que dès maintenant, nous soyons sûrs qu'il est vivant, qu'il soit ressuscité. Et voilà pourquoi, en effet, il était convenable que Jésus ressuscite, non pas tout de suite, non pas à la fin des temps, mais le troisième jour, cette période qui permettait de comprendre. Ce qu'il faut remarquer aussi, dans ce comment est-il ressuscité, c'est que la résurrection pour Jésus ne représente pas la simple reprise de sa vie normale d'homme, ce qui s'est passé sans doute pour Lazare. Lazare a été ressuscité, comme nous le disons, mais malheureusement, nous utilisons le même mot pour désigner ce qui s'est passé pour Lazare et ce qui s'est passé pour Jésus. Non. Lazare est ressuscité, mais pour reprendre sa vie normale d'être humain destiné à mourir une seconde fois. Une résurrection toute relative. Dans le cas de Jésus, la résurrection a été non pas seulement la simple reprise d'une vie normale, mais la reprise d'une vie rigoureusement immortelle. C'est-à-dire une vie qui ne soit plus sujette de nouveau à la mort. Une vie transfigurée. C'est très important de souligner ça. Il s'agit d'une résurrection. Il s'agit d'un cas tout à fait unique dans l'histoire. Ne confondons pas la résurrection de Jésus et puis la résurrection de Lazare ou d'autres réanimations dont il est peut-être question dans l'histoire. Alors, comment cette résurrection s'est-elle passée? Par quelle cause? Par quelle cause? Saint Thomas se pose la question.
Parce qu'il n'avait pas de péché. Il ne pouvait pas mourir en réalité.
Ah non, Jésus est vraiment mort.
Oui, ça. Mais normalement, il n'aurait pas dû mourir puisqu'il était sans péché et que c'est le péché qui apporte la mort.
Alors?
Alors, Dieu lui a rendu sa vie.
Voilà. Donc, c'est par l'intervention d'une puissance divine que Jésus a ressuscité. Il s'agit là de quelque chose qui dépasse les forces humaines. Puissance divine. Et si la mort représente cette séparation de l'âme et du corps, comme nous le disons, la reprise, la réunion du corps et de l'âme ne peuvent se réaliser que par une puissance surhumaine. C'est évident. C'est donc Dieu qui a réalisé cette résurrection. Mais c'est Jésus lui-même qui a réalisé sa propre résurrection, dans la mesure où Jésus est une personne divine. C'est sa personne divine seule qui a pu agir dans ce cas. Cette personne divine qui était unie à son corps et unie à son âme, alors même que la mort avait réalisé la séparation du corps et de l'âme. Et le mystère de la mort de Jésus, que l'union hypostatique demeure alors que l'union naturelle est cassée. L'union naturelle de l'âme et du corps est brisée par la mort, mais l'union hypostatique n'est pas brisée, elle. Alors la personne divine fait exister son âme et son corps séparés. Et c'est la même personne divine qui va les réunir. Par la mort. Ce qui est cassé, c'est l'union naturelle de l'âme et du corps. Donc nous adorons Jésus, tandis que son corps est au tombeau, nous adorons le corps de Jésus. Nous adorons Jésus au tombeau. Parce que c'est la personne divine qui tient dans l'existence son corps, son propre corps, qui le fait exister. Mais il fait exister aussi son âme pendant la période de la descente aux enfers, ce mystère de la visite des âmes. Jésus va communiquer sa béatitude aux âmes séparées, aux âmes des justes. Et donc, Jésus, par l'union hypostatique, tient dans l'existence son âme et son corps, il les tient séparés. C'est lui qui va les réunir aussi par la résurrection. Ben, l'union de l'âme et du corps, c'est une union naturelle. C'est ça qui est cassé par la mort.
Oui.
N'empêche que l'âme existe et le corps existe séparément. Non seulement ils sont séparés, mais ils existent unis à la personne divine du Fils. L'union hypostatique n'est pas cassée. Et c'est en vertu justement de l'union hypostatique que nous disons que Jésus va réunir par lui-même son âme et son corps. Et alors, aussitôt se pose une autre question qui est un véritable problème. La question la plus difficile quand on se trouve en face du mystère de la résurrection, c'est à savoir la qualité de ce corps ressuscité. S'agit-il d'un vrai corps humain? Et soulignons ici tout de suite que les seuls renseignements que nous ayons sur la réalité de ce corps de Jésus ressuscité se trouvent dans les textes évangéliques. Nous n'avons absolument rien d'autre pour nous renseigner. Et nous n'avons, bien entendu, aucun autre cas qui puisse nous renseigner sur la réalité de ce corps glorifié. C'est le seul cas que nous avons à envisager. Jésus ressuscité. Alors la difficulté qui est considérable, c'est que, à lire les textes des évangiles, nous avons une double impression. Les évangélistes donnent l'impression qu'il s'agit du même corps, c'est toujours Jésus. Puis d'autre part, il donne l'impression qu'il s'agit, dans Jésus ressuscité, d'un corps très différent de celui qu'ils avaient pu voir, avec lequel ils avaient pu vivre au cours de sa vie normale de Jésus. S'agit-il du même corps ou s'agit-il d'un corps différent ? La certitude rigoureusement absolue que nous donnent les évangélistes, c'est qu'il s'agit du même Jésus. C'est bien lui. C'est-à-dire, c'est bien sa personne divine et c'est bien son individualité humaine aussi. Alors, comment admettre que ce soit le même Jésus qui apparaisse dans des conditions tellement différentes. Au point qu'on ne le reconnaît pas. Et c'est ici qu'il faut faire intervenir le mystère d'un corps dont on dira qu'il est glorieux. Un corps qui n'est pas dans la même situation que nos corps à nous en ce moment. Ou que le corps de Jésus pendant sa vie normale. Et cette affirmation est appuyée sur les textes de saint Paul, quand saint Paul nous parle d'un corps spirituel à propos de la résurrection, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 44. Qu'est-ce que saint Paul veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel? On veut dire tout d'abord qu'il s'agit d'un corps qui n'est pas exactement, identiquement, le corps que nous voyons en ce moment, que nous sommes capables de ressentir. Comment comprendre un corps qui n'est pas exactement celui que nous constatons par nos sens? Alors, le principe que saint Thomas va mettre en avant pour essayer de se rendre compte de ce mystère, c'est l'affirmation psychologique que le corps humain, c'est la matière de l'âme. L'âme est la forme du corps. Il y a entre l'âme et le corps une union rigoureusement indissociable, sauf par la mort. Et l'âme est donc la forme du corps. Par conséquent, si nous avons affaire à une âme qui reste identique avant et après la mort, il est normal d'admettre que le corps sera aussi, de ce point de vue-là, le même corps animé par une même âme. Est-ce que vous comprenez ça?
Ce qui est le cas de Lazare.
Oui, mais c'est une réanimation.
Ah oui, d'accord.
Tandis que là, maintenant, j'essaie de vous expliquer, finalement, que ce corps-là de Jésus est dans des conditions, une condition tout autre que le corps de Lazare, ressuscité. Il reste que ce corps, qui sera le même dans la mesure où c'est une même âme qui l'anime, ce corps-là peut subir des modifications aussi profondes que possible. Ces modifications qui vont conduire à l'idée d'un corps céleste, un corps glorifié, un corps spirituel, une matière, si vous voulez, la matière du corps, qui ne sera pas exactement celle que nous constatons dans notre expérience normale. Comment est-il possible d'admettre qu'une matière soit si profondément modifiée qu'on ne puisse, par exemple, plus reconnaître un corps humain? Eh bien ici, contrairement à ce que nous pourrions penser, c'est nos sciences modernes qui nous facilitent la compréhension de ce que nos évangélistes veulent nous dire. Nous savons aujourd'hui à quel point une même matière peut se présenter sous des états très différents. Les hommes du Moyen-Âge, les pères de l'Église aussi, imaginaient la matière telle que nous la constatons ici-bas, et puis ils imaginaient aussi une matière céleste, la matière dont étaient constitués les astres, par exemple. Ils disaient, le corps du Christ, c'est un corps matériel sans doute, mais d'une matière un peu différente de la nôtre, un peu comme la matière des corps célestes, une matière profondément modifiée. Eh bien, nous savons, nous autres, en effet, qu'une même matière peut se présenter sous des états très différents. Par exemple, l'astronomie nous donne à penser que les corps célestes auxquels pensaient les anciens présentent une matière apparemment tout à fait différente de la nôtre, sous des états tout à fait différents. Et pourtant, c'est la même matière constituée par les mêmes éléments, les éléments matériels. Nous savons par exemple que la planète Jupiter est constitué d'un noyau d'hydrogène solide, d'ammoniac en cristaux, d'azote, de méthane. Or, l'hydrogène que nous connaissons ici-bas, et qui se présente pour nous sous forme de gaz, se réalise dans Jupiter sous forme de solide. Comment pouvons-nous penser à un gaz qui se présente sous forme de solide? Ça représente quelque chose d'absolument inimaginable pour nous, un gaz solidifié. Tout ça pour nous indiquer qu'une matière, tout en restant la même, d'une certaine manière. La définition de l'hydrogène est la même. Peut se présenter sous des états tout à fait différents. Voilà pour les indications de l'astronomie. Et d'autre part, pour les indications de la physique nucléaire. Nous savons que nos corps, comme la matière de cette table, est composé d'atomes, d'électrons, d'ions, etc. Et ce que nous donne les formules que nous connaissons bien. Or, ces éléments, l'atome, l'électron, l'ion, sont rigoureusement identiques en tant que tels à ce que nous trouvons dans le Soleil, par exemple. Mais dans des conditions tellement différentes qu'il serait impossible de reconnaître ces éléments-là dans la matière comme du Soleil. Nous savons, en ce qui concerne le Soleil, qu'à chaque seconde, 500 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium, ce qui suppose des transformations fantastiques. Tout ceci pour nous inviter à comprendre qu'il n'est pas étonnant, qu'il n'est pas absurde d'admettre qu'un corps matériel, notre corps humain, parmi tous les autres, se présente sous des états complètement différents, tout en restant de même nature, tout en gardant, comme nous disent nos chimistes, la même formule, la formule de l'hydrogène, la formule de la cellule humaine, la formule de nos gènes, formule, etc., sous des états tout à fait différents. Et n'oublions pas que notre corps humain est composé, lui aussi, d'hydrogène, d'atomes, d'ammoniac, d'azote, de méthane, exactement comme dans le Soleil. Mais sous des états différents. Tout ça pour essayer de nous faire comprendre cette impression que nous donnent les évangélistes. Ils sont en présence d'un corps, mais d'un corps doué de propriétés absolument étonnante. C'est quelqu'un qui vient alors que les portes sont fermées. C'est quelqu'un qui disparaît sans que l'on s'en aperçoive. Qui apparaît sans qu'on s'en rende compte. C'est quelque chose de très mystérieux. Pas trop fatigué, encore quelques secondes. Comment s'expliquer alors les manifestations de ce corps ressuscité de Jésus? Saint Thomas réfléchit à la question 55. Les manifestations de Jésus ressuscité. Un corps humain, mais dans des conditions tout à fait différentes. De même, en effet, quand on lit attentivement les textes évangéliques concernant les manifestations du Jésus ressuscité, il est clair qu'aucun des évangélistes ne donne l'impression d'avoir constaté la résurrection du Seigneur. C'est tout à fait remarquable. En d'autres termes, il n'y a pas d'expérience possible du fait de la résurrection. Et ça s'explique très bien quand on pense qu'un corps ressuscité, un corps glorifié, ne peut plus être l'objet de nos sens normaux, étant donné que, par définition, c'est un corps qui a dépassé les conditions sensibles, les conditions normales. Donc on comprend très bien que l'on n'ait pas vu le corps de Jésus passer de son état de corps normal à l'état d'un corps glorifié. Nos sens ne sont pas capables de voir un corps glorifié, un corps spirituel. Qu'il ait voulu laisser une trace de cet instant, ça c'est encore autre chose. Une trace du corps humain, mais pas du corps glorifié. Sensuel. C'est la trace de quoi?
Du corps humain, de blessures, de sang, et en même temps, pas d'arrachement.
C'est, voilà. Mais quand on réfléchit par rapport à ce qu'on vient de vous dire, au fond, par la puissance de la résurrection, Jésus a bien pu laisser une trace de son corps normal, mais il a laissé cette trace en vertu de sa puissance divine et de la condition tout à fait autre qu'il allait donner l'instant d'après à son corps ressuscité. Mais ce n'est pas nécessairement un indice de la résurrection de Saint-Suaire. Réfléchissez bien. Mais ce corps spirituel peut se rendre sensible. Il n'est pas sensible de soi, mais il peut se rendre sensible. Et c'est ce que les évangélistes ont reconnu. Jésus s'est rendu sensible, il s'est fait voir, il s'est fait toucher à ses apôtres, mais dans des conditions tout à fait modifiées. Donc, les évangélistes se sont rendus compte qu'ils avaient affaire au même corps vivant de Jésus, mais qui ne leur était plus reconnaissable. Et ce qui est remarquable, c'est que dans tous les cas où Jésus est apparu, la première impression, les évangélistes, les saintes femmes, ne l'ont pas reconnu. C'est extraordinaire quand on y pense. Si cela avait été le même corps, ils l'auraient reconnu à son visage, à ses traits, à son vêtement. Ils n'ont pas reconnu quand il se manifeste. Jésus s'est fait reconnaître, non pas simplement en disant « Mais c'est moi !» mais en donnant des signes caractéristiques. Par exemple, son geste pour les disciples d'Emmaüs. Il avait l'habitude de fractionner le pain d'une certaine manière. Ils ont reconnu ce geste. Et il s'est fait reconnaître à Thomas en lui montrant des signes, des cicatrices dans son corps transformé. Alors que ce corps transformé n'est plus reconnaissable. Il est reconnaissable à certains indices, certains signes qui sont maintenus. Saint Thomas explique ça. Il a voulu maintenir certains signes dans son corps, et pour l'éternité. Quand on verra Jésus ressuscité, on le verra vraiment, sa beauté, son corps transpercé. Il a voulu garder ça. Est-ce que ça vous paraît, ça, étrange, absurde, tout ce que je vous dis là? Non, pas trop? Essayez de se rendre compte. S'expliquer l'étonnement des apôtres. Et je pense que nous pouvons approcher de l'expérience des apôtres en réfléchissant à notre expérience, à nous, pour nous faire comprendre ce que je vais dire. Voyez comment c'est l'expérience normale de ne pas pouvoir reconnaître quelqu'un que nous avons perdu de vue depuis 30 ou 40 ans. Pour quelqu'un qui est âgé, qui a passé 80, 90 ans, disons, hein, quand vous revoyez un grand-fils que vous n'avez pas revu vraiment depuis 60 ans, est-ce que vous pouvez vraiment... Certains hommes, par exemple, qui étaient partis à la guerre, on croyait morts, on les croyait complètement morts et enterrés, puis on les revoit vraiment. On pourrait le reconnaître uniquement à certains indices. Alors, montre-moi ton oreille. Ah, ah, je te reconnais ta cicatrice que tu avais à l'oreille. C'est bien toi. Mais le corps est tellement, tellement transformé. De même après un accident de voiture, carbonisation, vous devez approcher de l'odeur et puis identifier. Ah ben oui, c'est bien. C'est bien mon père. Mais le corps est calciné, mais vous le reconnaissez à un indice dans son corps. Un bébé, vous n'avez pas revu depuis 50 ans. Vous ne pouvez pas le reconnaître. C'est pourtant le même. Et voyez, quand il s'agit de Jésus, voyez, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas passé simplement par une longue série d'années ou de temps. Il s'agit de quelqu'un qui est passé par la mort. Or, on peut imaginer ce que le passage par la mort peut introduire de transformation dans un corps, dans une personnalité, dans une individualité humaine. S'il est difficile de reconnaître quelqu'un qui a simplement passé par quelques années, il est possible d'admettre que quelqu'un qui a passé par la mort ne puisse plus être reconnu par ceux qui l'ont vécu avec lui. Ce n'est pas tellement absurde. Surtout la mort que cet homme-là avait vécue. Ce déchirement, cette défiguration, c'est fantastique. La destruction du corps de Jésus. Un corps en pleine vigueur, en plus. Et on comprend très bien que Jésus ne pouvait pas se faire reconnaître. Si c'était fait reconnaître, on aurait eu l'impression que, mon Dieu, il n'était peut-être pas mort, qu'il avait passé quelques instants de coma et qu'il était revenu à la vie. Tandis que là, il a voulu montrer qu'il avait passé par la mort, par ce phénomène fantastique, qui est encore plus, encore une fois, que 30 ans ou 40 ans d'une vie normale. Vous voyez? De la résurrection. Alors vous avez ces choses-là qui sont pressenties dans le catéchisme. Vous avez ces choses-là qui sont reprises. Et c'est l'œuvre de la Trinité, la résurrection de Jésus. C'est magnifique ça. De même que le corps et l'âme de Jésus. C'est les trois personnes divines qui l'ont fait. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé de l'incarnation, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont créé ensemble l'incarnation, l'âme et le corps. Donc les trois personnes divines ont fait l'âme et le corps de Jésus. Ils ont fait cette union de l'âme et du corps, nature humaine, vraiment nature humaine complète. Bon, c'est l'œuvre des trois personnes divines. Hein. Mais cette œuvre-là se termine, comme saint Thomas l'explique, par l'assomption de l'unique personne du Fils. C'est une union hypostatique. Union hypostatique du Fils. Donc les trois personnes divines font ensemble l'âme et le corps, mais cette assomption de l'âme et du corps se fait par la seule personne du Fils. Bon, profond mystère. Eh bien, vous voyez, l'âme et le corps ayant été séparés, les trois personnes divines qui créent l'âme et le corps, pour l'union hypostatique, crée la résurrection. Mais elle est attribuable spécialement au Fils. C'est Jésus qui a repris sa vie. Comme il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, la vie. Voilà, excusez-moi de vous avoir retenu un peu. Ouais, un petit peu notre parcours, un peu du parcours dans le credo.
Il nous manque l'Esprit Saint.
Il nous manque l'Église. Il nous manque,
et l'Église, ouais.
Ouais, il nous manque tellement de choses. Je voyais, on a quand même fait un parcours important. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.